Bienvenue dans Le Débat, notre émission d'analyse et de confrontation des perspectives. Aujourd'hui, on retourne en 1956. Kwame Nkrumah et son parti viennent de remporter 71 sièges sur 104 au Parlement de la Côte d'Or.
Ce qui est tout simplement énorme. On parle d'un raz-de-marée de 68%. Hein.
Absolument. Dans n'importe quelle démocratie classique, on appellerait ça un triomphe absolu. Mais ici, cette victoire écrasante menace presque de déclencher une guerre civile.
C'est tout le paradoxe de cette élection, en fait.
Voilà. Donc la question centrale aujourd'hui, c'est de savoir si ce scrutin représente vraiment le triomphe d'un État unifié, prêt pour l'indépendance, ou s'il masque une fracture régionale beaucoup plus explosive. Personnellement, je soutiens qu'on a là un mandat démocratique absolu, l'outil centralisateur vraiment indispensable pour forger une nouvelle nation.
Et moi, je suis convaincue que ces chiffres, ils sont trompeurs. Si on regarde la carte électorale de plus près, cette mathématique parlementaire cache une véritable poudrière structurelle.
Alors, reprenons les bases, si vous voulez bien. Le gouvernement britannique avait exigé une majorité raisonnable avant d'accorder l'indépendance. Et Nkrumah, il ne l'a pas juste obtenue, il l'a pulvérisée.
Ouais, pulvérisée sur le papier, je vous l'accorde.
Pas que sur le papier. Avec son slogan « Self-Government Now », le CPP s'est vraiment imposé comme une machine électorale implacable. Ils ont mobilisé jusque dans les villages les plus reculés, c'est un fait. Pour moi, ils décrochent un mandat incontestable pour imposer sa vision centralisée et forcer Londres à plier.
Je dis pas le contraire sur la mobilisation côtière, c'est réel. Mais ça dessine quand même une nation scindée en deux. L'opposition a tenu bon, particulièrement le National Liberation Movement, le NLM.
Le fameux bouclier politique de la monarchie à Chantilly.
Exactement. Le NLM et ses alliés du Nord ont farouchement défendu leurs bastions territoriaux. Et attention, ils ne demandent pas de simples petits ajustements politiques, hein. Ils exigent une constitution fédérale. En fait, ils rejettent catégoriquement l'idée même d'être gouvernés par l'hégémonie d'Accra.
Mais j'ai envie de dire que cette fracture territoriale, elle est inévitable. Toute démocratie a ses bastions régionaux, non? En quoi l'ancrage local d'une opposition viendrait invalider la légitimité écrasante des 71 sièges du CPP?
Parce qu'ici, ce n'est pas qu'un simple clivage électoral, c'est un choc existentiel.
Un choc existentiel? Carrément.
Oui, entre une tradition monarchique très ancrée localement et une modernité centralisatrice. Et pour comprendre pourquoi ces 68% ne pacifient pas le pays, il faut regarder d'où vient l'argent. La Côte de l'Or repose sur une économie dangereusement dépendante du cacao.
Ah, le cacao, le nerf de la guerre.
Voilà. Et qui produit ce cacao, à votre avis?
C'est précisément cette région à Chantilly.
Les leaders à Chantilly savent pertinemment que le projet de Nkrumah va nécessiter des fonds colossaux.
Donc ils exigent le fédéralisme pour protéger leur portefeuille, en résumé.
Ils refusent que la richesse de leur cacao soit siphonnée par Accra pour financer le développement exclusif du littoral ou les ambitions de Nkrumah, oui. Bâtir une administration nationale quand votre principal moteur économique se méfie de vous à ce point, c'est avancer sur un terrain miné.
Siphonner, le mot est fort. Quand même. Un État moderne centralise et redistribue les richesses. C'est la base même de la gouvernance. Il fallait bien s'emparer de ce moteur économique pour financer un projet qui dépasse largement la colonie.
Vous parlez de la dimension panafricaine, là.
Tout à fait. Nkrumah s'apprête à rebaptiser le pays Ghana, en référence à l'empire médiéval. Il crée le tout premier précédent d'indépendance pour l'Afrique noire. Pour porter cette émancipation à l'échelle du continent, l'État se doit être fort et unifié.
Les symboles sont puissants, je le reconnais.
On ne peut tout simplement pas lancer une révolution panafricaine si des chefs régionaux gardent la main mise sur le trésor national. C'est impossible. Céder au fédéralisme à ce stade, c'était risquer la balkanisation du pays avant même sa naissance.
C'est un argument de poids, mais regardez le paradoxe incroyable de cette situation. Pour libérer son peuple du joug colonial, Nkrumah se retrouve contraint d'adopter une poigne de fer envers une partie de sa propre population.
Une poignée nécessaire, diront certains.
Peut-être, mais l'opposition perçoit cette centralisation non pas comme une libération, mais comme un nouveau colonialisme. Un colonialisme mené par le Sud contre l'intérieur des terres. Les symboles ne suffisent pas à apaiser ceux qui ont l'impression de se faire confisquer leurs propres ressources.
Je comprends votre point, mais quoi qu'il en soit, la mécanique institutionnelle, elle est désormais enclenchée. Le verdict des urnes place Londres face au mur. Le secrétaire britannique avait posé ses conditions et le CPP a fourni la preuve électorale éclatante.
Ah ça, sur le strict plan diplomatique face aux Britanniques, la victoire est totale, c'est indéniable.
Westminster se retrouve donc dans l'obligation politique de voter la loi d'indépendance.
Je vous concède ce point. Mais ce scrutin acte un divorce réussi avec l'Empire, tout en laissant la future nation seule face à ses propres démons intérieurs. La loi d'indépendance ne résout en rien la cohabitation avec une opposition attachée au fédéralisme.
Le transfert de souveraineté actera bientôt la naissance du Ghana avec toutes ses complexités. Le défi qui s'annonce est fascinant. L'histoire nous dira si la légitimité démocratique d'Accra suffira à cimenter ce nouvel État ou si cette concentration du pouvoir finira ironiquement par le fracturer. Merci d'avoir partagé votre analyse avec nous.
Merci à vous.